Il ne fallut pas longtemps pour débarrasser l'appartement de ma grand-mère qui possédait si peu de choses. Elle avait voulu être incinérée et que ses cendres soient dispersées au pied de l'unisphère de la foire internationale de 1964 où elle m'avait emmenée quand j'étais bébé. Ses économies, quand j'eus payé sa dernière facture, s'élevaient à peu près à 1 800 $, mon héritage. Je m'en servis pour prendre un studio et acheter un tourne-disque afin d'écouter mes albums. Il faut vivre d'une manière très différente quand vous gardez un secret, surtout un secret gros comme la façon dont votre mère est morte et que le nom que l'on vous donne n'est pas celui de votre naissance. Si on détient un secret, il est plus facile de n'être proche de personne. Et longtemps, c'est ce que je fis. Durant toutes mes années de lycée et d'école d'art, je n'eus jamais de petite amie ni d'amis proches, à l'exception de mes cours et de mon travail de serveuse, dans un modeste restaurant de Mission, j'étais isolée. Je dessinais tout le temps. Je punaisais une photo de Tim Buckley au mur, en partie parce que je le trouvais beau, mais aussi parce qu'il était mort jeune et de façon tragique comme ma mère. Je passais si souvent « Once I was » que je dus racheter l'album. Chaque fois que j'avais envie de me retrouver d'une humeur particulièrement sombre, il me suffisait de mettre cette chanson. Et puis, j'ai rencontré Lenny, un homme étranger à toute forme de tragédie. Si je voulais décrire Lenny en une phrase, ce serait celle-ci. Il marchait côté soleil. Je veux dire que c'était la dernière personne de qui je me serais imaginée tomber amoureuse. La dernière personne susceptible de tomber amoureuse de moi, sauf que ce fut ce qui nous arriva. Peu après mon diplôme de l'école d'art, j'avais été sélectionnée pour participer à une exposition à San Francisco dans une petite galerie coopérative de Mission. Les artistes s'y relayaient et proposaient des assiettes de crackers saupoudrées de fromage en boîte quand quelqu'un entrait jeter un coup d'œil, ce qui n'arrivait pas très souvent. La plupart des œuvres de l'exposition étaient abstraites ou conceptuelles. L'une d'elles consistait en un morceau de viande posé au milieu de la pièce. Le deuxième jour, les mouches tournaient autour et le quatrième jour, on sentait l'odeur de viande pourrie dans toute la galerie. « Je crois que tu devrais l'enlever, » dis-je à son auteur quand il arriva pour distribuer à son tour les crackers. « Pas de problème, » répondit-il. Il avait apporté un autre bout de viande, un morceau moins cher. Mon travail était accroché dans un coin. À la différence de presque tous les artistes exposant leurs œuvres dans la galerie, mes dessins au crayon étaient très réalistes, inspirés par la nature. Dessiner m'intéressait depuis que j'étais toute petite, avant même de venir habiter avec ma grand-mère, mais cela devint une obsession, probablement après la disparition de ma mère. Quand je sortais mes crayons, plus rien d'autre n'existait. Au cours des années, il m'était arrivé de passer mes journées dans les bois ou, quand c'était possible, au parc, à dessiner toutes sortes de champignons ou à soulever des branches pourries pour observer le fourmillement des insectes qu'elles cachaient et allaient reproduire. Au printemps, suivant le décès de ma grand-mère, j'étais partie dans la Sierra Nevada une quinzaine de jours. J'avais marché, dormi dans ma vieille tente et rempli mon carnet de croquis, de dessins des fleurs sauvages que je trouvais. Ce carnet de croquis m'avait valu une bourse à l'école d'art. À l'époque de l'exposition à la galerie, mes dessins représentaient surtout des oiseaux. Les croquis affichés au mur montraient une espèce de perroquet connu sous le nom de Connure, qui avait élu domicile en ville. On disait que vers le milieu des années 80, deux ou trois connures rares et magnifiques s'étaient échappées d'un magasin d'oiseaux exotiques du sud de la Californie, pour remonter vers le nord et arriver finalement à San Francisco où elle s'était accouplée avec un étonnant succès. Bientôt, une volée d'oiseaux de couleurs vives était perchée dans les arbres de Telegraph Hill. Dans une ville où la population d'oiseaux était majoritairement constituée de pigeons, de moineaux et de geais, on ne pouvait que remarquer le plumage rouge, bleu et jaune des perroquets de Telegraph Hill. Par la fenêtre de mon petit studio de Valero Street, debout avec ma tasse de café, je les regardais descendre en piqué au-dessus des marches de Filbert, en direction de Coit Tower. Mes photos de ces oiseaux exotiques si inattendus dans la brume de la Bay Area, punaisées sur le mur au-dessus de ma table à dessin, devinrent le point de départ de la série de dessins que j'exposais à la galerie le jour où Lenny y entra. Cet homme de taille et de carrure moyenne devait avoir à peu près mon âge. Son apparence n'avait rien de particulièrement remarquable, sinon son regard très doux et l'allure de quelqu'un bien dans sa peau. J'en fus sans doute frappée parce que je n'aurais pas pu en dire autant de moi. Il portait une veste des San Francisco Giants, si usée que la plupart des gens l'auraient trouvée bonne à jeter. J'en conclus qu'il était soit totalement fauché, soit extrêmement attaché à son équipe. Les deux étaient vrais. Mais Lenny aimait les Giants, presque autant qu'il m'aima au bout du compte. Il passa sans s'arrêter devant les autres œuvres exposées, un œil géant sculpté avec les mots « Big Brother » en travers de la pupille, un tableau représentant un jeune homme tenant un revolver contre sa tempe qui, je le savais, contrairement à d'autres, ressemblait beaucoup à l'artiste. Il était dans mon cours de dessin d'observation et souffrait de dépression. Quand le moment vint pour l'auteur du tableau au revolver d'accueillir les visiteurs à la galerie et de proposer des crackers, il déclara qu'il ne pouvait pas. Il n'arrivait pas à sortir de son lit. On comprenait au premier coup d'œil que Lenny avait une attitude extrêmement positive dans la vie. Il ne prêta aucune attention au flancher de bœuf qui pourrissait par terre et se dirigea droit vers mes conures de Telegraph Hill. « Elles sont magnifiques, » dit-il devant le dessin d'une paire de conures perchées sur une branche. Il avait un cracker dans la bouche, deux autres dans les mains et il souriait. J'appris plus tard qu'il était entré dans la galerie avec l'espoir de trouver à manger gratuitement. Ce qui finit par arriver fut un bonus inattendu. « C'est moi qui les ai dessinés, » dis-je. Quand j'étais petit, nous avions un perroquet dans la famille, Jake. Je lui avais appris à dire « Téléportation, Scotty », comme dans Star Trek, et le « Vas-y, fais-moi plaisir » de Clint Eastwood. C'était Lenny tout craché. Ses attachements à une chanson, un tableau ou un lieu étaient fondés sur de plaisantes associations avec une vie jusqu'alors singulièrement heureuse. Outre le perroquet, il avait deux sœurs qu'il adorait, une aînée, une cadette, et un chien. Ainsi que des oncles, des tantes, des cousins, des amis de colonies de vacances qu'il voyait encore régulièrement, des parents, toujours mariés, toujours amoureux. À sa bar mitzvah, sa famille l'avait porté sur une chaise à travers la pièce en chantant. Il faisait partie d'une équipe de bowling, possédait ses propres chaussures de bowling et une chemise avec son nom brodé sur la poche. C'était sa première année d'enseignement dans un quartier difficile et il entraînait une équipe de t-ball le week-end. Pour quelqu'un comme moi, c'était un vrai martien. J'admire vraiment les artistes. Je suis incapable de tracer une ligne droite. Tu as sans doute plein d'autres talents. Des trucs pour lesquels je suis complètement nulle. Une remarque pas très maligne, mais pour moi, ces quelques mots adressés à un homme, pas un canon de beauté, mais attirant à peu près de mon âge, étaient tout à fait inhabituels. Après les avoir prononcés, j'eus peur qu'ils apparaissent comme pleins de sous-entendus sexuels, ce qu'il me confirma plus tard. « Tu sais lancer une balle de baseball ?»« Devine. Je vais t'emmener à un match, » déclara-t-il comme ça. « Où ?»« Ne me dis pas que tu n'as jamais été à Candlestick Park. » »« Alors je ne te le dirai pas. » Ensuite, nous ne nous sommes plus quittés. Pendant le match, mon premier événement sportif professionnel, il prit le temps de m'expliquer le tableau des scores, le point produit et l'erreur forcée. Vers la fin, lors d'un tour de batte, l'un des Giants exécuta un coup sûr qui vola au-dessus de la tête du lanceur. Je me tournai vers lui et lui dis quelque chose du genre « Super !» On appelle ça une chandelle, ce n'est pas une bonne chose, m'expliqua-t-il gentiment. Puis il m'embrassa sur la bouche. Un baiser fabuleux. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, le mien parce que Lenny était en colocation, nous avons fait l'amour pour la première fois. Pour moi, la toute première fois. J'avais 22 ans, j'avais terminé l'école d'art depuis 6 mois, j'étais illustratrice médicale à temps partiel, ce qui expliquait les crayons alignés par couleur sur la table de la cuisine de mon appartement de Valero Street, ainsi que les photos des principaux organes et les dessins des appareils reproducteurs, circulatoires, lymphatiques, digestifs et squelettiques affichés au mur.